Voilà, donc nous ouvrons la parole de notre Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 17. Et comme vous le voyez, le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Expérimenter la joie de servir le maître ». Donc le Seigneur Jésus, il est en route vers Jérusalem. Et au chapitre 10, au début, il est dit qu'il a choisi 70 autres disciples pour les envoyer devant lui dans les villes ou villages, dans tous les lieux où il lui-même devait passer, pour qu'ils annoncent que le royaume de Dieu s'était approché d'eux. Et ça, c'est dans les versets 1 à 16 de Luc chapitre 10. Et le Seigneur Jésus demande aux disciples, il leur demande d'avoir une pleine confiance en lui, parce qu'il allait les protéger, malgré le fait qu'ils soient... des agneaux au milieu des loups. Si tu peux juste baisser un peu le son, s'il te plaît. Merci. Voilà. Il dit qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais le Seigneur, c'est leur protection. Le Seigneur allait pouvoir aussi à leurs besoins de chaque jour, puisqu'il leur dit, voilà, là, ceux et celles qui vont vous accueillir dans leur maison, ben, entrez et mangez ce qu'on vous donne. Et donc le Seigneur va pouvoir leurs besoins aussi par ce biais, grâce à l'hospitalité des uns et des autres, mais aussi que ce qu'ils allaient recevoir des uns et des autres leur serait suffisant. Pas besoin d'aller de maison en maison, ils devaient accepter ce qu'on leur donnait et donc vivre dans le contentement. C'est ce que nous avons vu donc la fois dernière. Et là, le texte que nous allons lire nous dit que, après un certain temps, les 70 disciples que Jésus avait envoyés, ils reviennent auprès du Seigneur pour rendre compte de ce qu'ils avaient fait. Ils sont dans la joie, ils sont heureux d'avoir servi leur maître, voyant qu'en son nom, il dit, même les démons leur étaient soumis. Alors, c'est ce texte que nous allons lire dans Luc chapitre 10, les versets 17 à 24. Et donc, nous faisons la lecture. Il est dit que les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Vous voyez, donc, dans ce texte, il est parlé de la joie. La joie... Des disciples, mais aussi la joie du Seigneur Jésus. Ils reviennent, donc ses disciples, après donc, un certain temps, tout joyeux, hein, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Ils étaient tout joyeux car ils ont pu servir leur Seigneur et ils ont vu qu'ils pouvaient chasser des démons au nom du Seigneur Jésus. Les disciples ont exprimé leur joie malgré, frères et sœurs, une grande fatigue, comme ce fut le cas des 12 apôtres que le Seigneur avait déjà envoyés précédemment. Ils ont exprimé leur joie malgré la fatigue. Au chapitre 9, dans les deux premiers versets, il est dit que Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, il avait envoyé les 12 apôtres et après, il envoie 70 autres disciples. Et lorsqu'on voit dans les évangiles, Matthieu, Marc ou Luc soulignent que les 12 apôtres, lorsqu'ils reviennent voir Jésus, c'est plutôt le fait qu'ils soient fatigués qui est souligné. Et Jésus veut les prendre et les mettre à l'écart pour qu'ils puissent se reposer un peu. Et ça, aussi bien dans Marc, Luc ou Matthieu, il est souligné cela. Et donc, ils mettent en avant la difficulté de la tâche que le Seigneur leur avait confiée. Les 12 apôtres, lorsqu'ils reviennent, ils sont fatigués, puisqu'ils ont travaillé. Et la tâche n'était donc pas facile, on peut l'imaginer, pour ces 70 disciples. Ils ont fait exactement la même chose qu'ont eu à faire les 12 apôtres. Et là, ils reviennent, on peut imaginer qu'ils soient eux aussi fatigués, mais la joie liée à la satisfaction d'avoir accompli l'œuvre de Dieu a surpassé la réalité de la fatigue liée à un service difficile. Et Luc souligne là la joie de ses disciples. Les disciples étaient joyeux malgré la difficulté de la tâche, parce qu'ils ont servi leur Seigneur. Et ils ont eu le privilège d'être des instruments que Dieu avait choisis pour manifester sa puissance dans la vie de ces personnes qui ont entendu la parole, la bonne nouvelle. Des personnes, certaines personnes qui étaient possédées aussi d'esprits impurs, puisque là aussi c'est une réalité, et des personnes qui ont pu être délivrées. Ils ont été des instruments que Dieu a choisis pour cela. La tâche était difficile. Et dans les Actes des apôtres, il nous est raconté comment les apôtres ou disciples du Seigneur ont exprimé leur joie malgré les souffrances alors qu'il servait le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Philippe, on l'a mis en prison, on l'a battu, et le texte nous dit dans Actes 16 qu'il priait et chantait les cantiques, et les autres prisonniers les entendaient. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, ils servaient leur Seigneur. Ils se retrouvent en prison et ils chantent des cantiques. Pierre et les autres apôtres étaient eux aussi joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et au lieu de se décourager à cause des épreuves qu'ils rencontraient, nous lisons qu'ils continuaient à servir le Seigneur, ne cessant d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, on le trouve dans Actes 5, verset 40. Vous voyez, la joie des disciples du Seigneur Jésus-Christ, malgré la difficulté, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'ils pouvaient rencontrer, qui pouvait même les décourager, cette joie demeure. Et donc, il y a de la joie à servir le Seigneur, quel que soit le travail que nous avons à accomplir en son nom. En Jean chapitre 4, verset 36, le Seigneur a dit aux disciples, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent, il est dit, ensemble. » Et dans le psaume 126, versets 5 à 6, il dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse, et celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. » Il y a toujours la souffrance, il y a toujours la difficulté lorsqu'il faut semer, mais il y a la joie lorsqu'on le moissonne. Il y a donc une joie à servir le Seigneur. Les disciples étaient joyeux d'avoir servi le Seigneur parce que ils ont vu la puissance du Seigneur s'accomplir à travers eux. Et si ils n'avaient pas répondu à l'appel du Seigneur, si, comme on l'avait vu, lorsque Jésus avait donné les conditions pour pouvoir le suivre, ils n'avaient pas dit, oui, mais à qui irions-nous ? Nous allons te suivre, puisque nous savons d'où nous venons, ce que tu as fait pour nous. C'est toi notre Messie, nous te suivons. Alors, allez, annoncez la bonne nouvelle. Et il y a la souffrance, il y a les difficultés, et il y a la joie de servir son maître. Ils étaient donc joyeux d'avoir servi le Seigneur parce que ils ont pu voir la puissance du Seigneur s'accomplir à travers eux. Et ils le confessent lorsqu'ils disent au Seigneur au verset 17, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Donc là, on voit qu'ils sont conscients que c'est grâce au Seigneur Jésus, grâce à la puissance de son nom, que les personnes ont été délivrées. Ils ne s'attribuent aucune gloire. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance du nom du Seigneur Jésus qui a délivré ces personnes. Et donc, ils sont dans la joie. Et ses disciples ont eu la victoire sur les esprits démoniaques parce qu'ils savaient que ce pouvoir ne venait pas d'eux mais que c'était le Seigneur qui leur avait donné le pouvoir de chasser les démons en son nom comme il avait donné ce pouvoir aux 12 apôtres lorsqu'il les avait envoyés eux aussi. Donc ils ne s'attribuaient aucune gloire, ils savaient que c'était le pouvoir de Jésus, ce n'était pas leur pouvoir, eux. L'autre chose, c'est que ses disciples savaient aussi qu'ils ont eu cette victoire parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ. Ils croyaient en la puissance de son nom. Ils croyaient en la puissance de son nom comme cet homme qui ne faisait pas partie de leur groupe au chapitre 9, dans les versets 49 à 50. Là, il est parlé de cet homme qui n'était pas dans leur groupe, mais qui chassait des démons au nom du Seigneur Jésus. Et le texte nous dit que Jean et les apôtres voulaient l'en empêcher. Et le Seigneur leur dit, mais ne l'en empêchez pas, parce que qui n'est pas contre vous est pour vous. Et cet homme qui chassait les démons au nom du Seigneur Jésus avait foi aussi en lui. Contrairement à certains des apôtres, les 9 autres que Jésus avait laissés, il était parti avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne lors de la transfiguration. Il avait laissé les autres. Et un père est venu auprès de ses disciples pour qu'il chasse le démon qui était pris possession de son fils et qui mortifiait cet enfant. Et ce père vient voir Jésus et dit, voilà, j'ai amené mon fils vers tes disciples et ils n'ont pas pu chasser ce démon. Et là, le Seigneur Jésus, il leur dit, race incrédule et perverse, Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc là, ces neuf disciples, apôtres, ils manquaient de foi. Race incrédule et perverse, leur dit Seigneur Jésus. Donc là, c'est 70 disciples qui reviennent et qui sont dans la joie parce qu'ils ont pu voir des personnes délivrées de la puissance du diable avaient foi en Jésus. Et parce qu'ils avaient foi en Jésus, le Seigneur a pu manifester sa puissance et délivrer ces personnes. Le Seigneur va les avertir. Dans le verset 19 à 20, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je vois là les avertissements du Seigneur. Il rappelle qu'effectivement, que c'était lui qui leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, qui sont en fait des animaux qui symbolisent des forces démoniaques et qui peuvent animer ceux qui s'opposent à Dieu et à sa parole. Lorsque Dieu, par exemple, a appelé le prophète Ézéchiel, il l'a envoyé vers le peuple d'Israël et qu'il a qualifié de peuple rebelle et peuple qui s'est révolté contre lui. Alors, il dit que ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. » Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Voilà. Tu habites avec des scorpions, des personnes qui se laissent dominer par les mauvais esprits et qui s'opposent à la parole de Dieu. Et le Seigneur rappelle à ses disciples, oui, effectivement, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est moi qui vous ai donné autorité sous ces puissances démoniaques. Mais attention, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Toute puissance de l'ennemi qui cherche à détourner l'homme de son créateur et l'empêcher de croire, ou qui cherche à pousser l'homme à pécher contre Dieu. Ces puissances de l'ennemi qui sont là, et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il est dit, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Le Seigneur dit à ses disciples, je vous ai donné autorité sur eux. Et le disciple de Jésus n'a pas à craindre ces forces démoniaques. Parce qu'il sait, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, dans Romains chapitre 16, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Il sait que le disciple n'a pas à craindre, parce qu'il sait que le Seigneur Jésus a effacé, il est dit dans Colossiens, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur a une pleine victoire sur le diable et sur tous ses serviteurs, tous les démons. Le Seigneur a une pleine victoire et dit à ses disciples, vous n'avez pas à craindre ces choses-là. Donc, frères et sœurs, la joie du disciple réside dans le fait qu'il ait mis sa confiance en Christ. Et lorsqu'on a placé sa confiance en Jésus, on sait qu'on est sauvé, que nul ne pourra nous ravir de sa main, il est dit. Et le Seigneur dit au verset 20, Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà. Avoir son nom écrit dans les cieux, c'est avoir la vie éternelle. C'est avoir l'assurance de son salut. Comme l'a rappelé l'apôtre Paul, il parlait de ses compagnons d'œuvre. Il parlait dans Philippiens 4 d'Évodie et de Saint-Tiche. Il les encourageait à être de même sentiment dans le Seigneur. Et il dit à son compagnon, il dit, toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Là, il y a cette assurance. Ces personnes, ces disciples de Jésus qui ont confessé le nom de Jésus, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et après, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puisque c'est finalement, c'est ça la vraie joie. C'est ça la source de notre joie. C'est de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et dans l'Apocalypse 3, verset 5, le Seigneur dit à l'église de Sardes, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, il est dit. » Par contre, le Seigneur, là encore, met en garde pour ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Même si ces personnes pensent faire des choses en son nom, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui me sert. Il y a de la joie à me servir. Donc il y a un lien extrêmement étroit entre le fait de croire et de servir. L'un ne va pas sans l'autre. On peut dire Seigneur, Seigneur, et ne pas faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Des gens qui commettent l'iniquité et qui disent Seigneur, Seigneur. Alors, chers amis, ça c'est la question essentielle. Votre nom est-il écrit dans les cieux? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Connaissez-vous la joie du salut? Et si vous n'avez pas cette assurance, alors la Bible dit, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour de salut pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre confiance en Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Ne rejetez pas la parole que vous entendez, parce que si vous le faites, vous serez jugé plus sévèrement que Sodom, que Tyr ou de Sidon, que le Seigneur cite dans les versets 12 à 15 de ce texte de Luc. Et dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, le Seigneur dit clairement ce qu'il adviendra de tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans les cieux. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. On ne va pas dire, ah mais Seigneur, regarde, il a fait ceci, il a fait cela, accueille-le Seigneur. Mais il faut arrêter. Ne pas penser que, ah oui, il nous voit et puis on va le retrouver. Ce n'est pas vrai. Apocalypse 20, versets 11 à 15, il dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est soit on est dedans, soit on n'y est pas. Et au chapitre 21, là, il parle de ceux qui, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, je lis à partir du verset 22. Il dit, chapitre 21, l'Apocalypse, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc, il n'y a pas de demi-mesure, frères et sœurs. Et le Seigneur Jésus dit, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre des cieux? Le Seigneur Jésus avertit aussi ses disciples contre le danger de l'orgueil. Quels que soient les fruits obtenus, la récompense du disciple est d'accomplir avec humilité le travail que Dieu lui a confié. Et dans Luc chapitre 17, verset 10, le Seigneur dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Vous savez, frères et sœurs, que je pense que la joie des disciples pour les victoires obtenues peut exprimer donc aussi la fierté de la réussite. Et cette joie peut être entachée par sa vieille nature, par son orgueil. Il peut avoir une fierté mal placée. Tandis que la joie du salut, je le crois, la joie du salut pousse à la reconnaissance. La joie du salut pousse à l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'on sait quel a été le prix payé pour ce salut, pour nous permettre d'avoir ce si grand salut. Et on ne peut que s'humilier devant le Seigneur. Il y a cette joie-là, mais ça nous pousse à la reconnaissance, à l'humilité. Et parfois, on peut faire des choses et l'orgueil peut prendre le dessus et ternir cette joie. Donc le Seigneur dit, attention, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La deuxième partie de notre passage parle de la joie du Seigneur Jésus. On dirait que la joie des disciples pousse le Seigneur à se réjouir également. Il est dit qu'il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait pour exprimer cette joie? Eh bien, il loue le Seigneur. Alors, quand on vient pour louer le Seigneur, en fait, on vient exprimer notre joie. La joie de savoir qu'on est enfant de Dieu. La joie de savoir que Dieu a permis de faire telle ou telle chose. Le Seigneur loue son Père pour sa sagesse, qui dans sa souveraineté a choisi de cacher, il dit, ces choses aux sages et aux intelligents et de les révéler aux enfants. Ces personnes, ces enfants, ces personnes qui font preuve d'humilité, reconnaissant leurs péchés et leurs besoins d'un sauveur. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Qui veut dire que pour se réjouir d'avoir son nom écrit dans les cieux et se réjouir de pouvoir servir le Seigneur, il faut au préalable avoir reçu le Seigneur Jésus dans son cœur comme un enfant. Pour pouvoir devenir un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord avoir été un enfant qui reçoit Jésus dans son cœur. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 18. Si on ne ressemble pas à l'un de ces petits, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu se fait connaître, Dieu se révèle qu'à ceux qui font preuve d'humilité. Dans Isaïe chapitre 5, verset 21, il dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Et Marie, elle dit dans Luc chapitre 1, elle rend grâce à Dieu, disant qu'il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il est dit, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui est humble est celui qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît sa misère, qui reconnaît son péché. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu dans sa vie, parce qu'il sait que sans Dieu, il est perdu. Et pour se révéler aux hommes, Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils pour se faire connaître aux hommes. Et comme le Seigneur l'a dit dans ce texte de Jean 14, versets 7 à 11, que je vous ai mis, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment, dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins. » À cause de ses œuvres. Le Seigneur Jésus est celui qui fait connaître le Père. Et si on veut connaître le Père, il faut connaître le Fils. Il a dit au verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, pour connaître Dieu le Père, nous devons venir à Jésus. Vous devez venir à Jésus, si ce n'est pas encore fait. Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui, il est dit. Venir à Jésus en mettant votre foi, votre confiance en lui. Crois au Seigneur Jésus, il est dit, et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'accepter dans votre vie comme votre sauveur et Seigneur. C'est ça aussi, mettre votre confiance en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Acceptez, chers amis, ce don gratuit. Acceptez ce seul moyen de salut. Ce qui dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc telle est la volonté de Dieu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Si vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, si vous voulez que votre nom soit écrit dans les cieux, alors il faut croire en Jésus. C'est la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, le Seigneur l'a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il demande donc de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et pour travailler dans sa moisson, le Seigneur appelle encore des hommes et des femmes à le suivre pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il appelle des disciples, il appelle les hommes et des femmes pour le servir. Ce service n'est pas toujours facile, bien au contraire. Mais le disciple peut accomplir ce service avec la force que lui donne son Seigneur. Et conscient que ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance qu'il peut faire quoi que ce soit, le disciple de Jésus voit la puissance de Dieu qui se manifeste dans sa vie et à travers lui. C'est pour ça qu'il peut dire, oui, je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'il sait que sa force vient de Dieu. Et frères et sœurs, j'aimerais nous encourager donc à servir fidèlement notre Seigneur en étant donc ses disciples. Et pour expérimenter la joie de servir le maître, il faut servir. Parce que si on ne sert pas, on ne peut pas expérimenter cette joie. Et lorsqu'on sert fidèlement son Seigneur, le disciple de Jésus peut, dès ici-bas, se réjouir en Dieu pour ce qu'il fait. En attendant le jour où son maître dira, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Puis il dit, entre dans la joie de ton maître, c'est dans la parabole des talents. Il est vrai que on sert le Seigneur et il peut y avoir une certaine lassitude, la fatigue qui est là, et ça peut ternir cette joie. Mais rappelons-nous que le Seigneur, c'est lui qui donne la force. Et que tout ce que nous pouvons faire avec la force que Dieu nous donne, alors faisons-le. Et que chacun puisse se poser cette question, mais est-ce que j'expérimente cette joie, la joie de servir? J'ai bien aimé le titre ou le qu'a donné donc nos sœurs pour leur action, servir avec joie. Voilà. Servir avec joie pour pouvoir expérimenter la joie de servir. Voilà. Et ce qui peut être difficile dans le service, c'est le fait de savoir que malheureusement, cette notion de service n'est pas appliquée par toutes et tous, qui peut justement décourager. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que la moisson, elle est grande. Mais lorsque nous sommes animés par l'amour et que nous nous mettons au service des uns et des autres, alors cette joie de servir ensemble, elle est là. Et parfois, on peut se sentir seul, mais voilà, que cette parole du Seigneur puisse nous encourager, que servir le Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux. Il ne dit pas que c'est facile, mais c'est l'expression de notre amour pour lui. Voilà. Et jusqu'au bout, il faut continuer à le servir et le faire avec joie. Mais n'oublions pas qu'il est dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen.